Bonjour et bienvenue à notre tout premier balado de la série Syndicois. Pour cet épisode, nous allons discuter avec l'équipe de relations de travail du bureau du syndicat. Annie, Ghislain, Senka et moi-même, Francis. Épisode 1, la sécurité d'emploi a ses limites.
Hein? J'aborde un sujet important et les questions qui seront posées sont celles qui nous sont habituellement adressées lorsqu'on vous en parle. Ben oui, la sécurité d'emploi a ses limites. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas subir de perte d'emploi. Il est vrai de dire que l'université a des obligations envers nous s'il survenait une abolition de poste ou une mise à pied, selon notre statut d'employé. Mais ici, j'ai envie de vous parler d'un phénomène qui est beaucoup moins encadré par notre convention collective, mais qui survient de plus en plus malheureusement depuis les dernières années. Les limites à notre sécurité d'emploi sont littéralement les congédiements pour les motifs disciplinaires, administratifs ou pour absentéisme. Je ne veux pas m'attarder sur chacun des motifs de manière détaillée, mais d'un en particulier. Brièvement, un motif disciplinaire signifie qu'une personne a volontairement fait une faute ou a eu un comportement inapproprié, tel que le vol, le harcèlement ou la négligence. Toujours de manière brève, un motif administratif signifie des manquements involontaires de la personne, comme l'incompétence, une capacité physique insuffisante à exécuter ses tâches, à l'inverse du motif disciplinaire. Là où il est important pour moi de mettre l'emphase, c'est le motif d'absentéisme. En effet, nous avons plusieurs articles dans la convention collective qui permettent de s'absenter du travail avec ou sans salaire. Cependant, s'ils sont tous utilisés de manière abusive ou non, accidentelle ou pour maladie, en lien ou pas avec le travail, certains critères seront considérés par l'université qui pourraient mettre fin à l'emploi d'une personne. Les critères sont les suivants. La présence d'un taux excessif, une période significative, une cause unique ou multiple, l'accommodement possible ou impossible sans contrainte excessive, la comparaison du taux avec les autres collègues et la mise en garde sur la perte potentielle du lien d'emploi.
Ouais, c'est beau ça, Annie, mais c'est quoi un taux d'absence excessif?
Un taux d'absence, Ghislain, c'est l'ensemble de toutes les raisons pour lesquelles tu t'absentes, puis que l'employeur, il ne trouve plus son compte. C'est-à-dire que, tu sais, toi, tu as un contrat de travail avec l'employeur qui est l'université, puis en échange de ton salaire, lui, il veut une prestation de travail. Fait que dès lors où tu déroges à ça puis que tu n'es pas présent au travail, pour toutes les raisons presque qui existent dans notre convention collective, tu pourrais faire face à un taux excessif qui pourrait mener à ton congédiement.
Même si ce n'est pas par exprès que je suis malade.
Mais on n'est jamais malade par exprès, c'est ça l'affaire. On n'est pas malade par exprès, on a des obligations familiales aussi, on peut s'absenter parce que la garderie nous a appelés, mais c'est pas de ta faute, mais c'est encore moins de la faute de l'université. Un contrat, c'est un contrat de travail que vous avez.
Est-ce que ça veut dire que mes congés de maternité comptent dans mon taux d'absentéisme?
Bien... je te dirais que non, parce que là, il y a quand même des droits prévus aussi dans les lois du travail. Là. Donc, les congés de maternité, parentaux, c'est pas inclus là-dedans. Ça étant dit, j'ai parlé tantôt d'obligations parentales ou de familiales. Bien, ça, malheureusement, ce sont des congés sans salaire que l'employeur considère dans le taux d'absentéisme.
Mais là, moi, je suis un peu inquiet. Est-ce que je dois... réduire mes journées variables ou...
Francis, ça, c'est une super bonne question. Puis ça, je me permets d'insister. Une demi-variable, c'est du temps travaillé. C'est du temps que vous avez déjà travaillé. Ça peut donc jamais être compté dans un absentéisme parce que c'est une présence déplacée de ton temps de travail.
Tu as dit tantôt période significative. Qu'est-ce que tu veux dire par là?
Bien... tu sais, ça peut faire 15 ans que tu travailles à l'université puis tes 5-7 premières années sont impeccables. Tu as été présent ou tu as été absent, mais de manière insignifiante. Là. Mais dès lors où on a un taux d'absentéisme, ça prend une absence. Pour commencer, ça prend une absence. On part de là. Puis la période significative, ça va être, est-ce qu'il y a une prévisibilité d'un retour au travail en santé qui s'en vient? Est-ce que l'employeur est capable de l'évaluer? À partir du moment où il n'est plus capable d'évaluer que tu vas être présent au travail, c'est là où ça devient significatif puis qu'il est inquiet.
Puis à ce moment-là, comment on le sait? Comment ils nous adressent ça, les ressources humaines?
En fait, en ce moment, la manière que l'université intervient, c'est que la personne est convoquée en présence des ressources humaines. Ils lui adressent premièrement l'existence d'un taux anormalement élevé, puis ils lui remettent une lettre mentionnant que la situation doit se rétablir. Si la situation s'améliore, ça finit là. Mais si ça continue, une deuxième rencontre, une autre convocation, une deuxième lettre, mais celle-ci va indiquer une cible à atteindre. Puis, évidemment, ils vont mettre en garde sur la perte potentielle du lien d'emploi. Puis si les absences se poursuivent, bien, dès le prochain dépassement de la cible, le congédiement va être confirmé.
Fait que si je comprends bien, une fois que j'ai reçu cette lettre-là, je ne peux pas me permettre, par exemple, d'avoir un accident d'auto qui serait complètement aléatoire?
À la première lettre, on t'a juste avisé de ton taux d'absence. Donc, évidemment, que tu aies un accident de voiture, une gastro, on ne s'attendra pas que tu te présentes sur les lieux du travail. Sauf qu'à partir du moment où tu as la deuxième lettre, oui, un accident d'auto pourrait être significatif, puis on va tomber dans des causes multiples d'absence.
Oui, mais Annie, on s'entend qu'il y a des secteurs qui sont moins touchés que ça que d'autres secteurs.
Mais Ghislain, est-ce que tu joues au hockey avec ton boss?
Non, mais on rit. Pour vrai, je fais la blague. Mais c'est réel ce que je dis. Pour le moment, l'université tente de trouver un outil pour rendre équitable, je dis bien équitable, tout ça, mais on va se le dire, là, ça prend un gestionnaire ou une équipe de travail qui va lever la main et qui va dire « Ah là, c'est parce que c'est moi qui fais sa job. » Moi, puis je le dis, mais c'est je l'invente pas, là, j'ai entendu ça. « Ah, aujourd'hui, on a mis une pancarte, c'est écrit « Elle est exceptionnellement présente au travail. » Tu sais, ça a un impact sur la charge de travail des gens autour. Faut le considérer, mais si tu joues au hockey avec ton boss, ça se peut que tu sois pas tagué.
Là, on a parlé de congé de maladie ou d'un accident, par exemple, imprévisible. On a aussi discuté des congés pour responsabilité parentale, les fameux 10 jours là, prévus à la convention collective. Mais est-ce qu'il y a d'autres absences qui sont comptées dans le taux?
Oui. Les vacances, les congés sans salaire en prolongation de vacances, entre autres.
Mais ça, même si c'est autorisé par ton gestionnaire?
Oui. C'est ça, ouais. Oui, c'est ça. C'est une absence considérée dans le taux, effectivement. Et là où je veux surtout mettre l'accent, c'est on a un droit fantastique dans la convention collective de s'absenter moins de 3 jours sans avoir besoin d'amener un certificat médical quelconque. Ça, c'est tellement à faire attention parce que il y a beaucoup de personnes, puis là, on ne vise pas à des coupables, rien de ça, mais il y a quand même beaucoup de personnes qui n'ont pas travaillé 5 jours depuis longtemps, par semaine. La lundite, la vendredite, elle existe, mais ça arrive aussi là, qu'on fait la migraine une fois par mois, puis sauf que ça peut faire monter un taux d'absence de manière significative aussi, quand on le combine au reste. Puis c'est important, là, je ne dis pas qu'on peut pas l'utiliser. Je dis que c'est un droit qui est fantastique puisqu'il est illimité, mais qu'on ne doit pas l'utiliser à une hauteur impensable.
Fait qu'il ne faut pas prendre ça à la légère, dans le fond, parce qu'on ne sait jamais ce qui nous attend avant nous autres, justement la fameuse accident de voiture. Fait que là, combiné à toutes nos petites absences ici et là, ça aurait une influence assez importante sur le taux.
Tout à fait. Puis, tu sais, si on remonte à il n'y a pas si longtemps, puis c'est un événement qui a été malheureux puis qui va avoir marqué une génération, mais la COVID, où on était isolé, obligé par le gouvernement, était considéré dans notre taux d'absentéisme. Alors que, tu sais, on était apte au travail, on aurait pu télétravailler, par exemple, tu sais. Puis là, je ne dis pas que le télétravail, c'est une solution pour camoufler un taux d'absence. C'est pas ça que je veux dire du tout. Ce que je dis, c'est que tout peut être compté, littéralement.
Mais là, si on est en absence longue durée, puis l'employeur nous propose de faire des travaux légers, est-ce que c'est une bonne idée, ça?
Tout à fait. En fait, les travaux légers, c'est une chose. L'assignation temporaire, quand on parle de santé et sécurité au travail, c'est une voie qu'il faudrait que l'université promouvoie. Puis je pense que c'est leur intention, mais est-ce qu'on l'a encore vécu? Pas tant. Mais surtout en lien avec les lésions professionnelles, c'est sûr que c'est à privilégier quand c'est possible, toutefois. Tu sais, on ne peut pas contraindre l'employeur. C'est ce qu'on appelle une contrainte excessive. Donc, on ne peut pas le contraindre à créer un poste sur mesure parce que on a des lésions X, Y, Z. Là. Fait que c'est tout là l'important de je pense, d'être conscient des raisons pour lesquelles on s'absente, de le faire lorsque c'est nécessaire et non pas parce que ce matin, c'est plus difficile. On peut se rendre au travail puis donner 60, 70 % de notre rendement une journée parce qu'on a un petit peu moins bien dormi. Ça ne nécessite pas nécessairement qu'on reste couché à la maison. C'est un peu ça le message. Mais sachez une chose, à toutes les fois où ça va survenir, un congédiement, on va être là pour analyser le dossier, puis on va aller devant les tribunaux, puis on va essayer d'empêcher que ça se produise. Mais c'est pour ça qu'on a choisi de vous en parler, parce que l'université l'utilise, les tribunaux ont souvent tranché la question, puis notre travail à nous, c'est l'éducation puis l'information auprès de vous autres, puis d'éviter la sentence ultime qui est un congédiement du travail. Maintenant, si après tout ça, vous vous sentez interpellé, ça vous inquiète, il faut communiquer avec nous. On est là pour ça, puis pour répondre à vos questions en lien avec ça. Mais on vous souhaite surtout une bonne santé.
Voilà ce qui met fin à l'épisode. Pour nous, pour l'équipe au bureau, c'était une toute première expérience. C'est pourquoi on aimerait beaucoup vous entendre à ce sujet. Si vous avez des commentaires ou si vous avez des idées de sujets qu'on pourrait traiter là, dans des futurs épisodes là, du balado. Et puis, d'ici là, on vous dit au revoir et à la prochaine!